Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service en ce lundi 4 février. Pour moi, c'est un voix de service un peu hors série. Jean-Charles et Roger m'ont abandonné cette semaine. Alors, je me suis tournée vers mes amis, mes textos, et j'ai un ami qui est venu à mon chevalier. Il a dit qu'il avait l'esprit chevaleresque. Avant de vous le présenter, une petite biographie, correspondant parlementaire. Ceux qui ne le savent pas, il a déjà été correspondant parlementaire à Ottawa. Journaliste au devoir, chroniqueur, journaliste sportif. Je me régalais d'ailleurs de ses chroniques le mardi matin à la radio de Vues et Voix, qui était à la magnétothèque à l'époque. Une mémoire phénoménale. Vous pourriez appeler à la régie et poser les questions que vous voulez, il va y répondre. Et une expertise exceptionnelle en sport. Et en ce lendemain de Super Bowl, il arrive avec son chandail, devinez, des Rams. Donc, mais il est de bonne humeur. Je vous présente Jean Dion. Bonjour Jean, comment ça va ce matin?
Bonjour Diane, ça va bien?
Oui.
Vous savez que c'est d'autant plus chevaleresque de ma part que beaucoup d'Américains voudraient que le lendemain du Super Bowl soit un jour férié aux États-Unis.
Mais on ne travaille pas, on n'est pas payé, donc c'est comme si c'était férié.
Pour le temps de se remettre des excès, n'est-ce pas, lors du match de championnat de la Ligue nationale de football.
Donc, vous allez parler de football dans cette première demi-heure?
Oui, bien sûr, avec grand plaisir.
OK. Moi, pour ma part, je fais exception, c'est un hors-série. D'habitude, je fais le tour du Québec avec ses artisans, ses terroirs. Je suis tombé sur le dernier National Geographic et les beaux corps en santé des joueurs de football m'ont inspiré parce que c'est un numéro sur les promesses de la médecine. Donc, je traiterai de médecine et de corps humain pendant cette émission. Alors, M. Dion, vous commencez cette émission.
Je commence cette émission?
Oui, au micro de Canal M.
Vous avez regardé hier, Diane, le match du Super Bowl?
En levant, du début à la fin, ouais. Je ne tenais pas sur mon siège. Le spectacle de la mi-temps m'a aussi renversé.
Oui. certains disent que le spectacle de la mi-temps allait de pair avec le match qui n'était pas un match très, très intéressant, à moins qu'on soit un adepte de la défensive.
De la défensive, voilà.
Parce que la défensive, notamment celle des Patriots, qui ont gagné 13-3, pour ceux qui auraient manqué la chose, a été vraiment, vraiment très efficace, très, très spectaculaire. Cela dit... Il n'y a rien qui était. Il n'y a pas de mention dans la Constitution des États-Unis qui prévoit que le match du Super Bowl doit être un excellent match ou une bagarre offensive à n'en plus finir. Et je vais vous dire, je faisais la remarque à des amis hier, tant qu'à faire. À un moment donné, jusqu'au milieu du quatrième quart, le score était quand même de 3-3. Bon, c'est rien pour s'énerver tellement si on aime l'offensive, si on aime l'attaque, mais il reste qu'il y avait encore un enjeu. On ne savait pas qui allait gagner. Alors que moi, je me souviens, et vous vous souvenez probablement, en tant qu'amatrice de football, vers la fin des années 80, on a eu une succession de Super Bowl là, où l'écart était de 30 ou 40 points à la fin du match. Alors là, vraiment, on décrochait dès la mi-temps, pratiquement.
Non, on discutait d'autres choses et on pigeait dans le bol de nachos. Voilà, tellement il n'y avait rien à voir.
Si ce n'était déjà fait. alors donc, on a eu un enjeu quasiment jusqu'à la toute fin. Et je pense qu'il faut voir, c'est drôle parce que je regardais on avait fait un sondage et je voyais une carte des États-Unis qui demandait, qui recensait par État quelle équipe les gens en général voulaient voir gagner. Alors vous aviez 7 États qui favorisaient les Patriots, c'est-à-dire les 6 États de la Nouvelle-Angleterre,
oui.
Et le Michigan. Parce que Tom Brady a joué son football universitaire au Michigan. Et tous les autres, c'était... Et là, il disait les Rams, mais ça aurait été n'importe quelle autre équipe ils auraient pris pour les adversaires des Patriots. Et je lisais ce matin Un excellent article sur le site du réseau ESPN, le réseau sportif américain, qui disait « Oui, on les haït, on les déteste, parce que, bon, ils sont tout le temps là, ils gagnent tout le temps. Bill Belichick, pardonnez-moi l'expression, une face...
Il sourit, toujours souriant, toujours avenant.
Oui, dans un livre que je lis actuellement, dont on va parler tout à l'heure, on le surnomme « Mr. Personality ».
Oui, hein, monsieur? Voilà.
Et l'autre figure, évidemment, des Patriots, c'est Tom Brady, le corps arrière, qui gagne tout le temps, qui est pratiquement jamais blessé. Il est trop beau.
J'ai appris qu'il avait fait le camp d'entraînement des Expos. Est-ce que j'ai rêvé?
Je ne sais pas s'il a fait un camp d'entraînement. Il a été repêché par les Expos dans les années 1990. Mais il a choisi le football plutôt que le baseball. Il faudrait vérifier s'il a participé à un camp d'entraînement. Probablement s'il a été repêché. Et donc oui, il est trop beau. Sa femme est trop belle. Il est riche. Il est bon. Alors, tout pour déplaire, quoi. Mais quand même, il faut se rendre à une évidence, c'est que nous avons en face de nous, dans les Patriotes, une dynastie, à une époque où il n'y a plus de dynastie, où les règlements, particulièrement dans l'NFL, sont faits pour qu'il n'y ait pas de dynastie. Écoutez, ils se sont rendus au Super Bowl 9 fois depuis 2002, ils en ont gagné 6. Et l'article de ESPN disait, ben, écoutez, on a beau les détester pour toutes sortes de raisons, il faut aussi prendre la mesure de l'histoire et que ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de connaître devant nous en tant qu'amateur de sport, ça ne se reproduira pas de notre vivant. Alors aussi bien y goûter.
On parle de notre vivant à nous, mais je vois l'âge de Jean-Sébastien derrière la régie. Il va peut-être avoir une occasion de voir ça de son vivant.
Non, parce que la dernière véritable dynastie remonte à plus de 20 ans, les Bulls de Chicago avec Michael Jordan. Et si on remonte, ça va plus loin. Les années 70, les années 60, les Canadiens, Celtics de Boston au basket, à une époque où les règles étaient différentes. Mm-hmm. Alors, chapeau. Et je pense qu'il faut s'incliner parfois.
Merci de cette première image du Super Bowl d'hier. Alors, moi, je me suis demandé qu'est-ce que les médecins pouvaient faire avec ces corps d'athlètes qui doivent être pas mal maganés au lendemain d'un Super Bowl quand je regarde comment ça se frappe et que ça bloque.
Je lisais une couple d'années le témoignage d'un joueur qui disait « Il n'y a pas une journée où ça ne fait pas mal. »
Et voilà. Donc, je vous entretiens de la médecine chinoise qui s'invite à l'hôpital. C'est dans le National Geographic. 1, 2, 3, bientôt 15 aiguilles de 13 mm de long viennent hérisser le pied droit de Christian, 57 ans, puis sa colonne vertébrale, son buste, ses oreilles et même son visage. Christian est atteint d'un myélome, un cancer de la moelle osseuse qui le contraint à porter un corset. Il suit un traitement d'acupuncture pour soigner les neuropathies dues à sa chimiothérapie. Cela prend la forme de fourmillements douloureux sur les doigts et les pieds, explique le Lyonnais. Taper à l'ordinateur était devenu une souffrance et j'avais beaucoup de mal à dormir. Je prenais un médicament 6 fois par jour, sans succès, et puis j'ai essayé l'acupuncture et au bout de 3 séances, ces sensations désagréables ont quasi disparu. On appelle ça la médecine allopathique qui traite les symptômes et réduit le patient à son corps fait de cellules et d'eau. C'est la médecine régulière. J'avais besoin d'une approche plus globale, nous dit le docteur Marie Fréchet, qui s'occupe au CHU de Lyon-Sud de l'acupuncture, dis-je. La médecine chinoise à laquelle appartient l'acupuncture prend en compte l'individu dans son intégralité. Cette méthode part notamment du principe que les organes sont reliés les uns aux autres par une énergie, le qi, qui circule à travers des canaux, les méridiens. Lorsque je pique à un endroit, il y a un effet analgésique local, mais cela peut aussi agir à distance sur d'autres organes. L'acupuncture n'est pas utilisée comme une médecine alternative, mais qui remplacerait les thérapies classiques du cancer, insiste la docteure. C'est une médecine complémentaire qui cible les effets secondaires des traitements anticancéreux. Les indications sont multiples, nausées, fatigue, douleurs dues à la chimiothérapie. L'acupuncture aiderait aussi à limiter les brûlures des radiothérapies et, dans le cas de l'hormonothérapie utilisée pour les cancers gynécologiques, à réduire sueur nocturne et insomnie. Donc, on parle aussi au docteur Alain Beaumelou, qui est néphrologue à l'hôpital de la Piété-Salpêtrière à Paris. La médecine chinoise est un système de santé global qui comprend l'acupuncture, les techniques corps-esprit, comme le Qigong ou le Tai Chi Chuan, de la nutrition, de la phytothérapie, des massages énergétiques. D'après moi, il y a des joueurs de football qui vont en avoir besoin aujourd'hui. Notre objectif est de valider scientifiquement ces pratiques. Pour notre médecine conventionnelle, il est difficile de comprendre le fonctionnement de ces thérapies, mais de plus en plus de patients, souvent parce qu'ils développent une défiance par rapport aux médicaments, se tournent vers cette médecine. Toujours à la pitié salpêtrière, dans l'unité d'addictologie, c'est le Qigong qui est utilisé. Au moment du sevrage, et ce durant 12 semaines, les patients suivent des séances régulières pour réduire le craving. On ne parle pas de craving à quoi, hein? C'est-à-dire l'envie impérieuse de consommer le produit, détaille le professeur Beaumelou. C'est un essai multicentrique que nous menons avec les hôpitaux de Strasbourg, à Nice, à Montpellier et à Bordeaux. Au service de neurologie, les parents atteints de la maladie de Parkinson à un stade modéré peuvent tester le Tai Chi Chuan et améliorer leur équilibre et limiter les chutes, tandis qu'en pédopsychiatrie, les adolescents bénéficient du Tui Na, des massages énergétiques pour réduire leur stress et leur anxiété. Je mise beaucoup, nous dit-il, sur les avancées en neurosciences pour lever le voile sur les processus à l'œuvre dans la médecine chinoise. Cela permettrait à ces pratiques d'intégrer plus largement les hôpitaux. Et voilà des techniques de médecine pour soulager, il semble, tous les maux. C'est l'acupuncture qui s'invite à l'hôpital.
Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Show.
On était dans la thématique du Super Bowl pour les sujets d'aujourd'hui, alors restons-y en musique également. La formation Maroon 5, elle qui a été en vedette hier pendant le spectacle de la mi-temps avec l'avant-dernière pièce de leur performance, la pièce Sugar.
Ah, parce qu'on avait de la difficulté à reconnaître les pièces. Moi, j'étais obnubilé par son estomac tatoué quand il s'est déshabillé devant la foule.
Ouais.
Comme Janet Jackson.
C'était quelque chose à voir, surtout si vous ne saviez pas qui c'était.
Oui.
Alors moi, je le voyais, c'est Adam Levine.
Moi, je les avais vus une fois.
Moi, personnellement, et là, je vais trahir mon grand âge, mais je ne le connaissais pas. Et il y a eu l'autre aussi, le rappeur, avec son manteau de fourrure. C'était vraiment le cliché du...
Moi, Maroon 5, je les avais vus à Saturday Night Live. Il avait été un des invités.
Mais vous savez, ce spectacle de la mi-temps-là... a connu un tournant, c'est en 2004, je pense, l'histoire de Justin
Timberlake
et Janet Jackson avec
le sein découvert.
Et après cet incident, si on peut dire, on s'est tourné vers des valeurs sûres. Hein. Il y a Paul McCartney qui est allé...
Bruce Springsteen,
on s'est tourné vers des valeurs sûres. Mais là, on est revenu un peu et évidemment, quand on avance en âge, ben, on connaît un peu moins ces artistes-là qui...
Il y a beaucoup d'artistes qui ont refusé
en soutien à Colin Kaepernick, n'est-ce pas, l'ancien carrière des 49ers de San Francisco, qui est toujours l'objet d'un... Bon, son avocat a dit, parce que bon, il s'est agenouillé pendant l'hymne national et ça a été vertement critiqué et appuyé par ailleurs. Là, c'est vraiment divisé sur ce sujet-là. Et son avocat a déclaré la semaine dernière, d'ailleurs, il y a eu une poursuite. Kaepernick a poursuivi la NFL il y a quelques mois pour collusion. Il dit que les propriétaires d'équipe s'entendent entre eux pour ne pas lui faire d'offre parce que il est assez évident pour tout le monde que Kaepernick aurait au moins le talent nécessaire pour être réserviste dans une des équipes de la NFL. Alors, personne ne lui a fait d'offre. Là, évidemment...
Et là, il va manquer d'entraînement.
Ben, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas. Là. Mm-hmm. Il a été libéré par les 49ers à la fin de la saison 2016. Alors, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Mais je reviens quand même brièvement à Tom Brady parce que vous avez souligné à juste titre qu'il avait été repêché par les Expos de Montréal au baseball là, dans les années 90. Alors, il a tous les talents. Mais imaginez que les Patriots l'ont repêché au 199e rang. Et Brady moisissait sur les lignes de côté. Et pendant la saison 2001, Drew Bledsoe, qui était le carrière partant des Patriots, un carrière étoile, il faut le dire, s'est blessé. Et c'est là que Brady a eu sa chance. Et bonté qu'il ne l'a pas raté. Hein. D'ailleurs, lui-même disait hier après le match qu'il n'avait jamais imaginé que ça pouvait aller jusque-là. Et ça donne une idée aussi du pif qu'a Bill Belichick et qu'ont les Patriots, parce que le joueur par excellence du match hier, l'ailier espacé, oui. Julian Edelman. Figurez-vous que Edelman...
Il a eu plusieurs passes de toucher. C'est pas lui qui a fait les passes de toucher?
Hier?
Edelman? Oui.
Ben, il y a eu seulement un toucher dans
ben,
le match.
Oui, mais il y a beaucoup... Pas de passes de premier jeu.
Il y a eu plusieurs réceptions.
Réceptions,
14, je pense. Mm-hmm. Et Edelman... Figurez-vous que lui, il a été repêché au 232e rang. Il sortait de Kent State. Et à Kent State, il était carrière. Un carrière qui portait le ballon régulièrement. Mais on a bien vu, Belichick en tout cas, a bien vu que Edelman pouvait s'illustrer d'une autre façon. On l'a transformé en receveur de passe et regardez ce qu'il est en mesure de faire. Alors,
il réussissait à se faufiler partout.
L'histoire des Patriots est carrément, je dirais, ahurissante dans la mesure aussi où il y a un roulement sur plusieurs années parce qu'écoutez, ça fait premier Super Bowl gagné, c'est en 2002, alors ça fait quoi, 17 ans, roulement de personnel et on dirait dans chaque cas, on réussit à aller chercher le meilleur de joueurs qui souvent ne fonctionnent pas dans d'autres équipes et à l'inverse, oui, plusieurs adjoints de Belichick sont devenus des entraîneurs-chefs ailleurs dans la Ligue. Oui. Et dans presque tous les cas, ça n'a pas fonctionné.
Alors,
il y a comme une recette magique, évidemment, qui est un peu assombrie par le fait... Bon, vous vous souvenez de l'histoire des ballons dégonflés,
oui,
l'histoire
oui,
d'espionnage ben ouais. d'autres équipes. Bon,
on aime l'haïr, ce Tom Brady.
Ben, c'est ça. Alors, il y a une part de... Un mot qui revient souvent en anglais là, dans ce qu'on peut lire, c'est « shady hein. ». C'est comme couvert d'ombre, c'est mystérieux, on ne sait pas trop. Certains les appellent carrément des tricheurs et tout. Alors, c'est ce qui fait en sorte que c'est une... Quoi qu'on en pense, de quelque côté qu'on se situe, c'est une foutue bonne histoire à raconter.
Merci, Jean. Alors, Jean, est-ce que vous savez qu'il faut suivre son horloge alimentaire?
En vieillissant, je dois vous dire que je suis de plus en plus convaincu mm-hmm. que le rythme à la fois du sommeil, de l'alimentation correspond à une meilleure santé.
Mais voilà, c'est toujours dans le National Geographic. C'est une interview du Dr. Michael Roizen, qui est responsable en chef du bien-être à la Cleveland Clinic, et le Dr. Michael Croupain, qui est consultant médical en chef pour une émission de télévision américaine, le Dr. Oz Show. Tous deux font depuis longtemps le lien entre une meilleure alimentation et une meilleure santé. Selon eux, les données scientifiques confirment que le moment où l'on mange est aussi essentiel que ce que l'on mange pour le maintien d'un poids adapté, la prévention et la guérison de certaines maladies, et pour une vie longue, pleine d'énergie et de bonheur. C'est pas rien. Ils ont bien voulu répondre aux questions du National Geographic. Quels faits scientifiques fondent votre approche de l'alimentation? Nous avons tous entendu parler de l'horloge biologique, le rythme circadien qui envoie des signaux chimiques à certains moments pour nous aider à nous réveiller,
ben oui.
à dormir et à faire d'autres activités. On a eu besoin ce matin d'ailleurs. Eh bien, nous avons aussi une horloge alimentaire et elle a une fonction similaire, synchroniser notre alimentation avec les réactions chimiques du corps. Selon cette horloge, l'idéal est d'avoir des apports énergétiques plus gros en début de journée et plus faibles ensuite. Mais notre corps demande l'inverse, plus de calories le soir et moins le matin. C'est un héritage de l'époque où l'approvisionnement en nourriture des humains était aléatoire et où il valait mieux stocker l'énergie. Aujourd'hui, notre planning alimentaire a des effets négatifs sur notre santé. Des études chez l'humain et l'animal l'ont lié au vieillissement prématuré, aux maladies chroniques et à la prise de poids. Rien de moins. Nous devons donc surmonter la répartition des prises alimentaires nées de cette pulsion et la modifier, donc plus en début de journée, le gros petit déjeuner, et moins à la fin, afin d'aligner nos habitudes sur notre horloge interne. Quels sont les principes fondamentaux de ce mode d'alimentation? Quelques ajustements à nos habitudes alimentaires aideront à synchroniser notre système, et voilà les plus importants. Idéalement, ne manger qu'aux heures où il fait jour, soit une fenêtre d'environ 12 heures, ou mieux encore, de moins de 12 heures. Cela signifie d'arrêter les raids nocturnes sur le frigo. Manger plus le matin et à midi, et moins à mesure que les heures passent. Notre corps fonctionnera mieux et sera en meilleure santé si nous faisons le plein de calories par anticipation au lieu de les consommer plus tard dans la journée. Et quels bénéfices peut-on en retirer? Ce mode d'alimentation vous aidera à éviter, atténuer, voire éliminer les maladies. Ouf! En suivant ces lignes directrices, on peut améliorer sa qualité de vie, meilleur sommeil, davantage d'énergie et tout simplement meilleure santé générale. Et il nous donne des aliments à manger pour aider le corps à mieux gérer certaines situations précises. Et hier, vous avez sûrement écouté la partie du Canadien dans l'après-midi, Jean.
Oui.
Vous avez vu Paul Byron quand il est sorti.
Je n'ai pas vu parce que je
un peu fâché.
Parce que j'écoutais le match, justement. Je n'étais pas devant, okay. devant un écran.
Il a subi une mise en échec.
Ouais.
Il s'est fait vraiment...
Ben, il a quitté le match.
Mal à l'épaule. Et quand il est passé derrière le banc des joueurs, il a, quand on dit, vargé dans le mur, là... À grands coups de poing. Et ce qu'il aurait dû faire, parce qu'on dit si vous êtes en colère, c'est écrit de manger des pois chiches grillés.
Ah!
Ils apportent des protéines et des fibres de bonne qualité. Leur texture croustillante et un goût délicieux plairont aux personnes à cran et affamées. Donc, on aurait dû lancer une poignée de pois chiches à Paul Byron.
Mais vous savez, j'ai mangé des pois chiches hier. On sait qu'on est en train de faire un virage légumineuse dans la société. Et ce que j'ai entendu, j'écoutais le match du Canadien à la radio, et c'est que Byron, sur le coup, savait exactement ce qu'il avait et il était fâché.
Hors de lui.
Fâché.
En musique, quand on retourne avec notre thématique Super Bowl 1995, où le thème du spectacle était Indiana Jones, et un des noms en vedette en 95 était Tony Bennett, qui a interprété la pièce Caravan, qu'on va écouter à l'instant.
Shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting. Magic charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true. Within our desert caravan.
Alors, nous sommes de retour. Nous avons discuté plein de choses, mais j'avais une question. Je vais vous la reposer. Je trouvais ça intéressant. Comment on décide de... Ou est-ce que c'est décidé longtemps à l'avance, l'endroit où va se jouer la Super Bowl?
Quelques années d'avance. Là, on savait, par exemple, si le Super Bowl a été présenté à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium, qui est ouvert il y a l'an dernier ou il y a 2 ans. Ben, on savait que c'était un bel effort de Arthur Blank, le propriétaire des Falcons d'Atlanta, de construire ce stade qui, paraît-il, je ne suis pas allé, mais paraît-il que c'est une pure merveille. Et donc, c'est le bureau, ce sont les propriétaires d'équipe ensemble qui décident où va se tenir le match. Et en général, on le sait 3-4 ans.
Pour que les gens puissent réserver leur billet.
3-4 ans d'avance. Ouais, ben, longtemps à l'avance. C'est ça, 3-4 saisons. Là, j'oublie où sera présenté le match l'an prochain, mais on le sait déjà.
Alors, vous avez avec vous un livre ou un article de ESPN dont vous avez parlé?
Non, ce n'est pas ESPN. Je me faisais la réflexion parce que, vous savez, bon, lors du Super Bowl, on entend parler partout. Même les gens qui ne suivent pas le football participent à la au party, si je peux dire, on se réunit partout en groupe, c'est un événement. Et une fête, certains diront, qui pourrait faire oublier le fait que le football est un sport extrêmement dangereux à pratiquer, extrêmement risqué. On sait que les blessures qu'il entraîne, les blessures physiques, on disait tantôt que ça fait mal, hein, ça fait mal. Les blessures aussi au cerveau qui entraînent différentes conditions extrêmement dangereuses. l'encéphalopathie traumatique chronique qui fait en sorte que les joueurs, à la fin de leur carrière, éprouvent des problèmes, des troubles de comportement, des problèmes mentaux, la démence. Plusieurs anciens joueurs se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus, vivre avec vivre dans leurs conditions. Et ces problèmes-là liés au football font en sorte que de plus en plus de parents décident que leurs enfants ne joueront pas au football. On se souvient de Barack Obama qui a dit « J'ai deux filles, Michel et moi avons deux filles, nous n'avons pas de garçons, et si nous avions des garçons, ils ne joueraient pas au football. » LeBron James, la grande vedette du basketball, maintenant avec les Lakers de Los Angeles, a dit la même chose. Et c'est un article du magazine The Atlantic, qui n'est pas un magazine sportif, hein, qui est un magazine d'affaires publiques en général, publie sur son site un article qui s'intitule « The White Flight from Football », qu'on pourrait traduire par « L'exode des Blancs du football ». C'est-à-dire que on constate que de plus en plus, et c'est vrai dans les écoles secondaires, c'est vrai dans les rangs universitaires, de plus en plus, la proportion de joueurs noirs est de plus en plus élevée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est pauvre, et il est évident que les Afro-Américains sont dans l'ensemble plus pauvres que les Blancs aux États-Unis.
Et qu'on veut aller à l'école.
Qu'on veut avoir une bourse pour étudier, il faut s'en remettre au football. Même s'il y a des risques, vous allez me dire au basketball aussi, mais le football particulièrement. Même s'il y a des risques, on est prêt à assumer ces risques-là pour se donner une chance dans la vie. Et cet article, statistique à l'appui, démontre combien il y a de plus en plus une fracture fondée sur la couleur de la peau aux États-Unis pour voir une fracture en ce qui concerne les joueurs. C'est très, très troublant et c'est vraiment particulier dans le sens où certains disent bientôt le football n'existera plus. Vous savez, je me souviens d'une phrase de Mohamed Ali à qui on avait demandé « Qu'est-ce que c'est la boxe? » Et Ali avait répondu « La boxe, c'est 10 000 blancs riches qui regardent deux noirs pauvres se taper dessus. » Et ce qu'on constate, c'est que le football n'est pas immédiatement appelé à disparaître malgré les risques qu'il entraîne, mais il pourrait devenir de plus en plus niché démographiquement quant à ceux qui le pratiquent. Et l'article dit « Il va toujours y avoir 50 000 personnes pour regarder un match dans un stade et combien de milliers...
Ouais, » Il y a quasiment plus de spectateurs dans les footballs universitaires que dans les matchs de la Ligue nationale.
Exactement. Et combien de millions à la télévision? Sauf que ça risque d'être de plus en plus, comme je vous dis, niché. C'est-à-dire qu'on va regarder des joueurs de plus en plus des Afro-Américains qui pratiquent le sport. Et la ligne de fracture est ailleurs aussi. L'article mentionne que dans la NFL, d'après vous, Diane, je vous pose une question. Quelle est la proportion de joueurs afro-américains dans la NFL?
80?
C'est 70 %. Okay. Mais 80, vous n'êtes pas loin parce que c'est la proportion dans la NBA, au basketball.
Okay.
Et les Noirs, à contrario, si je peux dire, ne forment que 10 % des dirigeants d'équipe, que ce soit des entraîneurs, entraîneurs adjoints, des directeurs généraux, etc. Il n'y a que deux propriétaires d'équipe qui ne sont pas des riches blancs milliardaires. Il y a Saïd Khan, qui est le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, qui est d'origine pakistanaise, il est né au Pakistan. Et il y a Kim Pegula, qui est l'épouse, qui est avec son époux, avec son mari, son copropriétaire des Bills de Buffalo, qui, elle, est d'origine coréenne. C'est tout. C'est tout. Alors, il y a une fracture vraiment
Trompe ou les carrières, ce sont plus des Blancs? Les carrières se font moins frapper que parce qu'ils ne sont pas en possession du ballon.
Là,
est-ce qu'il y aurait un lien à faire aussi? Non?
Je trouve que la corrélation est un peu forcée, mais il y a effectivement plus de carrières Blancs. Et il faut remonter pas tellement loin dans l'histoire pour voir qu'il y a eu pendant longtemps une discrimination qui a été faite au sens où il était généralement considéré dans les milieux du football qu'un noir n'était pas assez intelligent pour être un carrière. Mmh. Ça allait jusque-là. Bon, maintenant, vous avez bien sûr Cam Newton, par exemple. C'était une vision qui était tout à fait non fondée, mais ça existait quand même. Alors, c'est à lire The White Flight from Football pour voir comment parfois ce sport à risque peut être la seule option possible pour s'en sortir, viable, ouais, pour s'en sortir de façon générale dans la vie.
Alors, je vous parle de médecine du futur. C'est ce qu'auront besoin ces joueurs de football dans les semaines qui viennent. C'est toujours dans le National Geographic. C'est un texte de Daniel Kraft. Dans l'ancien modèle de soins, les données médicales des patients n'étaient collectées que ponctuellement, surtout lors d'un séjour à l'hôpital, et se retrouvaient dispersées entre des dossiers papier et des systèmes d'archivage électronique. Aujourd'hui, il existe une meilleure option, la technologie personnalisée, capable de surveiller en permanence les signes vitaux et d'enregistrer les données de manière détaillée. À peine une décennie après la révolution des objets connectés, symbolisée par le lancement du premier bracelet Fitbit, les dispositifs de surveillance de la santé sont omniprésents. La plupart servent à mesurer et à enregistrer l'activité sportive. À l'avenir, ces moniteurs seront essentiels pour prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies. Des tatouages électroniques et des capteurs adhésifs pourront réaliser un électrocardiogramme, mesurer la fréquence respiratoire, vérifier le taux de glycémie et envoyer les résultats par Bluetooth. Et si nous voulions collecter des données médicales quand les gens ne portent aucun dispositif? Attention, des ingénieurs du MIT, de l'Institut de technologie du Massachusetts, ont modifié une sorte de boîtier Wi-Fi pour qu'ils captent les signes vitaux et les cycles du sommeil de plusieurs personnes vivant sous le même toit. On est loin de Alexa qui nous écoute parler, là. À mesure que de nouvelles techniques de détection apparaîtront, elles fourniront davantage de données et d'informations biomédicales qui, elles-mêmes, pourront être reliées à la masse croissante des données génomiques. Cela ouvrira ainsi de nouveaux champs pour optimiser le bien-être, comprendre les maladies et choisir les méthodes de prévention et les interventions les mieux adaptées à chaque patient. Grâce à des applications et à des capteurs, un téléphone portable pourra réaliser des électrocardiogrammes et surveiller une arythmie dangereuse. Un logiciel et un microphone pourront y être ajoutés pour écouter une toux et diagnostiquer une éventuelle pneumonie. Afin d'améliorer le traitement de l'hypertension, un risque majeur de mort prématurée, des capteurs actuellement en développement pourraient mesurer en continu la pression artérielle et ce, sans brassard. Et je termine avec une thérapie musicale pour les en soins postnatales. Je trouvais ça pas mal intéressant. Fragiles, les bébés prématurés pourraient mieux se porter grâce à la musique. Dans la majeure partie du monde, les naissances avant terme, à 37 semaines de gestation ou avant, ont augmenté ces 20 dernières années. Quitter trop tôt l'univers nutritif et protecteur de l'utérus peut entraîner des complications et nécessite souvent un séjour dans une unité de soins intensifs néonatale. Aux hôpitaux universitaires de Genève, en Suisse, la musique est intégrée dans le parcours de soins de certains prématurés. Mais contrairement aux programmes musicaux d'autres unités, ce projet novateur s'articule autour de 3 chansons précises que les nouveau-nés écoutent grâce à un casque audio conçu pour leur tête minuscule et fragile. C'est développé par la néonatologue Petra Oupi, la chercheuse Manuela Filippa, et pour ceux qui ont mon âge, qui vont peut-être s'en rappeler, le compositeur Andreas Vollenweider, que j'écoutais dans les années 80. L'étude vise notamment à comprendre comment la musique affecte le cerveau d'un prématuré. Pendant que des bébés écoutent les morceaux, leur cerveau est scanné par IRM et les résultats sont comparés à ceux de bébés non exposés à la musique. Les chansons courtes ont été composées pour aider les prématurés à s'endormir, se réveiller ou interagir. Les premières données sont encourageantes. L'IRM révèle une meilleure connectivité cérébrale chez les bébés exposés aux chansons et un meilleur rythme journalier de veille et de sommeil. Voilà, c'était un texte de Catherine Zuckerman dans le National Geographic.
avec l'article que Diane vient de nous lire. C'était Andreas Vollenweider avec un extrait de son album qui arrive en 1983, Caverna Magica.
Merci Jean-Sébastien. Alors, Monsieur Dion, on poursuit avec ce...
Je voulais juste préciser que le livre auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui est un excellent, excellent bouquin, c'est un journaliste qui s'appelle Mark Leibovich, qui travaille au New York Times Magazine, et qui est, normalement couvre la politique, et qui là s'est lancé du côté du sport, du football nommément, et qui a écrit, ça a été publié en septembre dernier, ça s'intitule « Big Game, the NFL in Dangerous Times », où vraiment il va à l'intérieur et il... surtout des... il côtoie, par exemple, Tom Brady. Il va... il côtoie des propriétaires d'équipes qui forment un cercle...
il a fait beaucoup d'interviews.
Très fermé. Il a fait énormément d'interviews. Et c'est une façon de regarder le football et la NFL différemment. Donc, Big Game, c'est publié chez Penguin Press. Et j'ai vérifié, le livre est disponible. Le livre audio est disponible sur... Audible.ca, $24. Et c'est vraiment passionnant.
Il n'est pas traduit.
Il n'est pas traduit, donc il faut comprendre l'anglais pour en goûter toutes les vertus, si je puis dire. Et par ailleurs, oui, je ne sais pas si vous avez vu, lundi dernier, il y a Paul Anderson. Vous souvenez-vous de Paul Anderson?
Le joueur de hockey.
Le joueur de hockey, oui, qui a joué avec les Red Wings,
les
Maple Leafs de Toronto. Vous voyez, j'ai une photo de lui à l'époque.
Ah oui, merci.
Et il était présent à la Chambre des communes. C'était son 76e anniversaire de naissance, le 28 janvier. Et Ben Lobb, un député conservateur ontarien, de la circonscription duquel est originaire Paul Anderson, a... proposer une motion qui a été adoptée demandant à ce que Paul Anderson soit admis au temple de la renommée du hockey. Anderson, il a eu une bonne carrière, mais la plupart des gens, y compris lui-même, on va dire, pas une carrière qui vous amène au temple de la renommée. Sauf que Anderson a été l'instigateur principal d'un moment dont tous les Canadiens qui étaient vivants à l'époque se souviennent. C'est que lors de la série du siècle de 1972 entre le Canada et l'URSS, le Canada est revenu de l'arrière pour remporter par la peau des dents cette série en remportant les trois derniers matchs. Il y avait quatre matchs au Canada, quatre matchs à Moscou et les matchs 6, 7 et 8, le Canada a gagné par un seul but et à chaque fois, le but gagnant a été marqué par Paul Anderson. De sorte qu'il est entré un peu dans la légende. Et moi, j'aime beaucoup les discussions autour du temple, des temples de la renommée. Parce qu'on regarde, par exemple, qui mérite d'être là. On regarde les statistiques. Est-ce que ce joueur-là a produit suffisamment pour accéder à ce qu'on appelle, ça le Panthéon, hein, comme si c'était tous des dieux. On les appelle les membres, on les appelle les immortels. Et... souvent, dans les débats qui entourent la présence, l'admission ou non de certains joueurs, on va regarder, oui, les statistiques, mais on va regarder aussi « Hey, c'était-tu un bon gars? » Qu'est-ce qu'il faisait à l'extérieur du terrain?
Est-ce qu'il était inclus dans le mouvement MeToo?
A-t-il été un bon ambassadeur? Et là, on regarde aussi les... on est dans l'époque, surtout au baseball, par exemple, où là, on est dans la période où on se demande est-ce qu'on élit des joueurs qui ont été liés aux stéroïdes? Jusqu'à maintenant, c'est non. Des joueurs comme Roger Clemens, Barry Bonds, on leur dit non, vous n'avez pas le droit d'entrer. Okay. Peut-être le feront-ils un jour quand on regardera les choses avec un regard... différent, d'un œil différent. Et dans le cas du temple de la renommée, par exemple, du baseball, ben on se dit, regardons dans le passé. Hey, un tel était un raciste.
Voilà, avec les nouveaux paradigmes, on pourrait remettre en question.
L'autre était un alcoolique. Mm-hmm. L'autre battait sa femme. Bon. Alors, c'est une discussion sur l'ensemble de l'œuvre. Paul Anderson a mené une vie, à ce que je sache, une vie exemplaire, mais certains disent, est-ce que ses seuls exploits pendant cette série-là qui l'ont élevé, une des photos les plus célèbres, vous la voyez peut-être, c'est Paul Anderson qui célèbre le but de la victoire au huitième et dernier match, et il est enserré par Yvan Cournoyer. Voilà.
Oui, c'est ça.
C'est la question de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on mérite d'être un immortel ou pas. Moi, je trouve que c'est une question extrêmement... comment dirais-je? Fertile.
Oui. Oui, ouais. Mais ça touche même les artistes et comme Michael Jackson maintenant.
Est-ce qu'on doit
est-ce qu'on sépare l'œuvre de l'homme?
Est-ce qu'on sépare l'œuvre de son créateur ou de sa créatrice?
Voilà.
C'est une question qui n'a pas de réponse absolue, mais qu'il est toujours intéressant de se poser et qui suscite des discussions passionnantes.
Merci, Jean. Alors, je vais terminer cette émission avec un article qui m'a interpellée beaucoup parce que à toutes les 6 semaines, je dois accompagner la tante de mon conjoint qui a des injections dans les yeux pour ralentir ou diminuer la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, cette fameuse DMLA. Et donc, à toutes les 6 semaines, à 7 heures le matin, on va chercher ma tante et on l'amène chez l'ophtalmologiste et elle... Quand je la regarde, les pieds retroussent quand elle reçoit ses injections. Je vois ses pieds, puis ses pieds retroussent un peu. J'ai toujours l'impression que ça doit faire tellement mal.
Quand vous dites une injection, si elle est gelée, avec une seringue?
Avec une seringue, oui, oui. Oh. C'est une injection 6 semaines.
Non, merci.
Oui, elle n'a pas le choix, sinon elle devient aveugle. Donc, c'est dans le magazine Optique, qui est une revue que nous recevons dans nos cliniques, des scientifiques créent des lentilles cornéennes thérapeutiques pour traiter des maladies oculaires. Des chercheurs de l'Université de technologie de Nanyang à Singapour ont conçu un nouveau dispositif pour acheminer des médicaments dans l'œil et traiter des maladies oculaires comme la dégénérescence maculaire. Le dispositif pourrait remplacer les injections, lesquelles présentent un risque d'infection, et les gouttes ophtalmiques, qui sont diluées par les larmes et traversent difficilement les défenses de l'œil. C'est une équipe de recherche dirigée par le professeur Cheng Peng de l'École d'ingénierie chimique et biomédicale. Donc, ces deux méthodes, nous dit le docteur Peng Cheng, libèrent uniquement un médicament de façon soudaine et de courte durée. On parle de l'injection et des gouttes. Ce n'est pas idéal, surtout pour traiter des maladies oculaires progressives chroniques qui nécessitent un traitement lent et continu, comme le glaucome. La nouvelle méthode que l'équipe a élaborée pour traiter les maladies oculaires comprend des petites, en effet petites, c'est 2 mm sur 2 mm, des petites lentilles cornéennes thérapeutiques recouvertes de 9 micro-aiguilles biodégradables. Ces dernières sont à base d'acide hyaluronique, un acide qu'on retrouve naturellement dans l'œil pour la fabrication des gouttes ophtalmiques. Ce dispositif correctif se porte comme des lentilles cornéennes en l'appuyant sur l'œil, on dit entre guillemets brièvement et doucement, je l'espère bien. Les micro-aiguilles s'introduisent dans la cornée et elles libèrent un médicament à un débit contrôlé. Puisque les aiguilles sont biodégradables, elles se dissolvent par elles-mêmes à la longue. Les micro-aiguilles sont fabriquées à l'aide d'une substance qui se trouve naturellement dans le corps, et selon des essais effectués sur des souris de laboratoire, là je ne sais pas comment ils sont venus à dire qu'elles sont indolores, parce qu'ils ont fait des interviews avec les souris, et minimalement invasives, confirme Cheng Peng. Si nous arrivons à reproduire les mêmes résultats dans les essais sur des humains, les lentilles thérapeutiques pourraient s'avérer une bonne option pour les maladies oculaires qui exigent une prise en charge à long terme, à la maison, comme le glaucome et la rétinopathie diabétique. L'équipe de Cheng Peng a déposé un brevet pour la technologie et cherche présentement des cliniciens pour étudier la faisabilité des essais médicaux. Et voilà, j'aime bien cet article qui va peut-être permettre à ma tante de moins... Je trouve qu'elle souffre quand elle a ses injections 6 semaines.
Need some.
Alors, je pensais créer un suspense un petit peu en demandant à mon équipe à l'animation qui était l'artiste qu'on vient d'entendre. Et puis, ben, Jean m'a tout bonnement demandé « Est-ce que c'est les Blues Brothers? » Eh bien, oui. Donc, ma question est manquée un petit peu, mais c'est en lien avec le Super Bowl de 1997, les Blues Brothers qui ont fait le spectacle de la mi-temps un an avant la suite du film Blues Brothers, qui est paru en 98, Blues Brothers 2000. Question qui ne va pas dans le sens où j'entendais Jean réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il va me poser comme question. Quelles étaient les deux équipes en 97 qui se sont affrontées pour le Super Bowl?
Est-ce que vous parlez de la saison 97?
Pour le Super Bowl qui était en janvier 97, donc saison 96. Pour le 31e Super Bowl, donc.
97. Il y avait certainement les Broncos de Denver. Oui?
Non.
Oh. Attendez, 97, là, j'essaie de me replacer.
Le 26 janvier 97.
Ouais, le 26 janvier, ça m'aide pas tellement. Hein, mais, attendez, c'était après la mini-dynastie des Cowboys de Dallas au milieu des années... 95, 96, est-ce que c'était les Packers de Green Bay?
Oui.
Oui, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
Je suis subjugué.
Voilà.
Vraiment, là?
Voilà. Non, c'est parce que Denver contre Green Bay, c'était la saison suivante ou la saison précédente.
Oui, et c'était bien sûr les Packers de Green Bay qui ont remporté le Super Bowl numéro 31.
Oui, c'est ça. Ben, à l'époque, c'était leur premier après une longue, longue période où ils n'avaient pas été très bons et qui étaient eux qui avaient remporté rétroactivement les Super Bowls 1 et 2 avec Vince Lombardi.
Ben, Jean Dion. Je vous remercie tellement, infiniment, d'être venu à mon secours.
Ce fut un grand plaisir.
Parce que je sais que le dimanche matin, vous vous levez très tôt pour être à Dessine-moi un dimanche. Ben, merci d'avoir accepté de vous lever ce matin pour moi. Ben, et on se reprend, j'espère, un jour.
Écoutez, ce fut pour moi pratiquement une grasse matinée.